La politique par le père Philippe, Arimont, le 23 mai 91.
Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors on continue, si vous voulez. Ce sujet très actuel, difficile, mais qu'il faut quand même regarder attentivement. Il ne faut jamais se contenter des conclusions que donne l'Église sur tel ou tel problème, puisque l'Église veut que nous les pensions philosophiquement et théologiquement, quand il s'agit de la famille, pour pouvoir donner des explications. Mais donc il s'agit à propos de la procréation de ce qu'on a, de ce qu'on appelle la fécondation artificielle. Je crois vous en avoir déjà parlé la dernière fois. Mais il est peut-être bon d'y revenir au moins un instant. C'est un problème qui, de fait, suscite aujourd'hui beaucoup d'objections. Parce que je crois, là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, confusion entre finalité et efficacité. Je crois que c'est constamment là où le problème est très mal posé. Et c'est toujours comme ça, vous savez bien, quand on regarde une réalité à contre-jour, on ne voit rien. Les photographes savent prendre des photographies. Ils font toujours attention à la lumière. Les peintres font attention à la lumière. Et les braves gens, qui sont des béotiens, ne font qu'une attention. Ils sont très étonnés de voir qu'il n'y a pas de résultat. Alors, il s'agit de comprendre. L'Église, là, je ne suis plus dans la philosophie, mais je vais revenir à la philosophie après. L'Église se place toujours comme une mère qui rappelle à ses enfants les implications mystère de la charité dans toute l'éthique humaine et religieuse, transformant cette éthique humaine et religieuse en une éthique chrétienne, dans la lumière des béatitudes évangéliques. Et l'Église met en garde devant certains aspects qui risquent de nous séduire, on peut être séduit par l'efficacité. L'efficacité séduit. Surtout quand c'est quelque chose de nouveau. Parce que dès que ça commence un tout petit peu à être moins nouveau, on est beaucoup moins séduit. Il paraît qu'il y a un livre, je ne l'ai pas là sous la main, mais c'est Michael doit le savoir. Un dernier livre sur justement celui qui avait été, qui avait lancé très fort ce point de vue en France, qui vient de faire paraître un livre, montrant que, de fait, ça pose des tas de problèmes. Voilà les conséquences sur la fécondation artificielle, la fivette. C'est intéressant, parce que ça montre le flux et le reflux, vous voyez. Je ne l'ai pas lu. J'ai vu la vie d'un médecin que je connais bien, qui est profondément chrétien, mais qui réfléchit beaucoup, qui m'a dit ça, ça vous intéressera beaucoup. Parce que on voit celui qui était à la tête de ça. Maintenant, on le considère comme marginal. Parce qu'il freine. Et attention, attention, attention. C'est intéressant de voir la sagesse de l'Église au point de départ, Quand on a déjà une conception, on se heurte. On serve l'Église, qu'est-ce qu'elle fait là-dessus? Elle est en contradiction avec elle-même. Elle est pour les enfants, et puis là, possibilité d'un enfant, elle arrête. Ce qui est très intéressant, c'est que l'Église, avant d'être pour les enfants, est pour la sainteté du mariage. Et la sainteté du mariage, c'est maintenir l'amour d'amitié entre les conjoints. C'est donc de tout faire pour que l'amour d'amitié des conjoints puisse aller jusqu'au bout. Mais c'est la perspective dans laquelle il faut le voir. Moi, je trouve ça très très beau. Parce que d'un côté, on a l'impression qu'elle est justement pour la fécondité, surtout ne pas l'arrêter. Et de l'autre côté, on offre une possibilité d'une fécondité selon un mode qui implique le secours et l'aide de méthodes techniques. L'Église, non. Ou l'Église, c'est attention, attention. Parce qu'elle poursuit toujours le même but. Le même but, c'est notre sanctification. C'est la sainteté des époux. L'Église est gardienne de la sainteté des époux. Et c'est ça que l'Église veut. C'est que nous devenions tous des saints. Et nous ne le voulons pas toujours. Vous voyez, c'est un petit désaccord qu'il peut y avoir. On est vite séduit par le fruit de l'arbre. Il paraît si beau, si extraordinaire, si merveilleux. C'est vrai. Je me souviens, au moment de la pilule, d'avoir entendu un médecin, un savant biologiste, puisqu'il enseigne à Paris, à la faculté de médecine, me dire, au plan scientifique, c'est extrêmement intéressant et merveilleux comme découverte. Alors, il me l'a expliqué. C'est vrai, c'est merveilleux au point de vue connaissance du corps humain, connaissance de ce que représente la fécondité. C'est merveilleux. Il y a la connaissance et il y a l'usage. C'est toujours ça qu'il faut faire attention. L'Église ne va jamais contre la science. Jamais. L'Église va contre l'usage qu'on en fait par rapport à l'homme. Et cette fameuse histoire de Galilée, parce qu'on a fait le rapprochement, c'est pour ça que je le fais. Vous l'avez déjà entendu, vous l'entendrez si vous ne l'avez pas encore entendu. L'Église retombe dans l'histoire de Galilée. Voilà ce que j'entends. Très bon médecin, ami que j'aime, mais qui ne peut pas accepter. Impossible. Dans l'histoire de Galilée, si on regarde bien, ce n'est pas la conclusion scientifique que l'Église condamne, c'est l'application par rapport à une lecture de l'Écriture, par rapport à ce que représente le mystère de la foi. Alors, je suis tout à fait d'accord que la condamnation a été mal faite. Il faut regarder l'intention. Puisque la découverte avait été faite 100 ans avant, et l'Église n'avait rien dit du tout. L'Église a commencé à dire quelque chose à cause de l'application. L'Église ne condamne jamais la recherche. Si la recherche scientifique exige au point de vue de la matière de la recherche, quelque chose qui n'est pas juste, au point de vue moral, il dira non, arrêtez votre recherche. À cause, non pas du désir de connaître de la science, mais que pour franchir telle ou telle limite, ah, il faut nécessairement accomplir telle, telle action que l'Église juge immorale. Tu dois être très attentif à ça. Oui. Ce n'est jamais la science que l'Église condamne. C'est l'usage qu'on fait de la science. Toujours. Toujours là-dessus qu'on porte. La prudence de l'Église. C'est vrai, je dirais au point de vue purement philosophique. C'est toujours à l'égard de l'usage qu'on fait de la prudence, de la science, que la prudence joue. Le savant, comme savant, c'est pas la prudence, c'est son intelligence. Mais l'application des conclusions scientifiques ou de la technique, regarde la prudence. Donc l'Église n'intervient pas au niveau de la science, elle intervient au niveau prudentiel. Mais c'est souvent mal dit. On aimerait que ce soit plus précis. Alors on fait des petits blocages et qui ne va pas très bien. Mais ça, c'est le rôle du théologien, là. Oui. C'est le rôle du théologien d'expliquer sur quoi l'Église dit attention ou l'Église dit non. Et ça porte toujours sur l'usage. Je ne parle pas ici du point de vue de l'Église, je me place à un point de vue purement philosophique. Et je me place au point de vue de l'éthique humaine, fondamentalement humaine, et de l'éthique religieuse. Puisque l'éthique chrétienne, le problème est résolu. Je me place à un point de vue de l'éthique fondamentalement humaine. J'espère que vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire une éthique qui se fonde dans le point de départ et l'amour d'amitié. Puisque c'est là où la responsabilité est la plus manifeste. C'est à travers l'amour d'amitié que je commence à comprendre ce que c'est que ma responsabilité. Elle garde un autre. Parce qu'au niveau citoyen, la responsabilité est assez lointaine. C'est vrai. Pas de la philanthropie. J'aime tous les hommes. J'aime tous les hommes. C'est pour ça qu'il me fait tellement être gardien de l'homme, parce que je les aime tous. Pas du citoyen, nous vivons le même pays. Oui. Si vous ne faites pas trop de bêtises, si vous n'avez pas trop d'éclaboussures, je vous laisse tranquille. Tandis que dans l'amour d'amitié, je deviens responsable de mon ami. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est dans cette perspective-là que je dois regarder. On est responsable de son ami. L'époux est responsable de son épouse et l'épouse est responsable de son époux. Au point de vue de leur finalité propre et humaine. On aime quelqu'un, on l'aime pour lui-même. Et l'aimer pour lui-même, c'est l'aimer dans son développement le plus parfait qui soit. Dans son bonheur. On peut être heureux que si on atteint ce pourquoi on est fait. Dans la mesure où on atteint son bien propre, sa fin. C'est dans cette lumière-là qu'il faut regarder. Pouvons-nous dernière fois que c'était dans cette lumière-là qu'il y a quelques années invité une petite réflexion au clair à Paris. Le problème m'avait été posé et je me suis dit, je leur ai dit, je me place tout de suite d'un point de vue philosophique. Puisque l'Église n'a rien dit, je ne veux pas devancer ce qu'elle dira. Mais je peux vous dire d'avance ce qu'elle dira. C'est facile à prévoir. Dès qu'on comprend le point de vue philosophique. Je dis ça parce que j'ai revu, ici apparaît, quelqu'un qui était présent à ça. Il me l'a rappelé. Il me dit, je ne vous ai pas vu depuis. Vous vous souvenez, cette fameuse journée. Il me soutenait du reste. Oui, là, je me rappelais. Je lui demandais si elle était en contact avec les médecins qui avaient été furieux. Les médecins. Elle avait dit, je les vois, mais on ne parle jamais de ce sujet-là. Parce que ça m'aurait intéressé de savoir leur réaction. Parce que ce sont des bons chrétiens. Ils font partie du clair. Alors, point de vue purement philosophique, distinguons bien le facere de l'agere. Distinction bien connue. Et qui est très importante pour justement distinguer le point de vue de la finalité du point de vue de l'efficacité. Le facere réclame l'efficacité, le faire, l'activité artistique. Tandis qu'au contraire, le point de vue de l'agir est toujours commandé par la finalité. C'est une distinction capitale, ça. C'est pas une vieille distinction. Elle a mis très longtemps à être élaborée. Parce que chez Platon, elle n'est pas élaborée. Parfaitement. Elle a été élaborée parfaitement avec Aristote. Elle a été reprise très nettement avec Maxime le confesseur, puisqu'on vient de vous voir, et puis avec le point de vue de saint Thomas. C'est Aristote, ça. C'est intéressant de voir les deux aspects. C'est intéressant parce que, vous voyez, l'autre jour, on m'a remis dans les mains un article d'un théologien orthodoxe, dont j'ai oublié le nom, français. Et de plus en plus, il y a des abbayes orthodoxes en France. C'est sur le filioque. Parce que ça rebondit actuellement. On a monté toute une série d'articles sur le filioque. Ça rebondit avec force. Il y avait cet argument. La procession dans la très sainte Trinité, est une activité transitive. Qui implique donc une orientation vers. Comme toute activité transitive. Qui peut avoir un effet, mais qui est orientée vers autre chose. Par le fait même, le philoque n'a aucun sens. Parce que l'Esprit Saint serait vers quoi? Mais rien. Parce qu'il n'y a pas de quatrième personne. Écrit par un théologien. Vous ne pouvez comprendre le raisonnement de saint Thomas sur la procession que si vous avez distingué le facere de la durée. Si c'est actuel, ces choses-là, vous serez en face de ces articles-là. Et c'est quelqu'un qui lisait ça. Cette revue est très belle, du reste. Et spirituellement, il y a des choses magnifiques. Tout d'un coup, au milieu, l'article sur le filioque. Et la personne me demandait, dites-moi un peu, qu'est-ce qui... Je sens bien que c'est pas tout à fait juste, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, on l'a lu ensemble. Et pour pouvoir donner une réponse à des points. Quand il s'agit de la vie de la très sainte Trinité, il ne s'agit pas du facere. Vous comprenez bien? Le facere implique une action transitive. La durée est immanente. Uniquement si vous prenez ça, tout de suite l'argument dégringole. Ça n'a plus aucun sens. Tout cet article, alors c'est au début de l'article, ça. C'est la deuxième ligne. Tout le reste est vrai. Ça, c'est élémentaire, parce que tous les pères de l'Église ont reconnu ça. Plus ou moins, avec plus ou moins de netteté. Sûrement que saint Thomas le reconnaît avec une netteté très particulière, je vous ai dit. Quatrième livre du Contrat Gentilès, chapitre 11. Un article qu'il faut, je ne dis pas le savoir par cœur, mais le comprendre. Alors, ça ça vous reste gravé. L'action immanente n'a pas d'effet. Elle peut avoir un effet. Un effet de surabondance. Elle n'est pas ordonnée vers autre chose. Elle est finalisée par elle-même. L'amour se finalise par lui-même. J'aime quelqu'un, c'est évident. J'aime pas quelqu'un pour aimer un autre. C'est très désagréable quand vous dites à quelqu'un « Je t'aime, c'est pour aimer ce troisième que tu aimes, toi. » Alors bien, vous devenez le sycomore pour bondir sur l'autre. Et ça va pas du tout. L'amour n'implique aucun effet, aucun fruit extérieur. On aime quelqu'un pour lui-même. Vous voyez ? C'est capital, ça. Et bien, quand vous regardez le point de vue de la procréation, l'amour des conjoints, du père, de l'époux et de l'épouse, se finalise par lui-même. Et cet amour, impliquant le don des corps, implique la possibilité de la fécondité. Si telles circonstances sont bien respectées. Cette fécondité, elle est dans le prolongement direct de l'amour. Elle est une propriété de l'amour. Dans le prolongement direct. L'amour d'amitié est un amour de personne à personne. Très désagréable quand il y a un tiers. C'est vrai. Vous allez voir quelqu'un, encore. Quelqu'un qui m'a dit ça. Je vais voir quelqu'un pour le retrouver. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Et cet ami a l'air d'être complètement oublié que je viens pour lui. Et il me fait voir tous les gens qui sont avec lui. Très bien, vous saluez au point de départ, mais vous attendez le moment où vous pourrez enfin lui parler tête à tête. Il va du tout. Il oublie tout le temps. Et tout le temps des visites, on est tous ensemble. Comme c'est agréable. Et il en conclut. Même plus. Vous voyez ? Et c'est la réaction spontanée. Et très juste. Elle est vraie, cette réaction. Dans l'amour d'amitié, on veut se retrouver avec l'ami. Les psychologues disent avec beaucoup de justesse que la situation triangulaire est la plus difficile. C'est admirable, parce que ça montre combien la très sainte Trinité n'est pas une situation triangulaire. Et ils sont trois, mais ils sont un. C'est pas une situation triangulaire. Je peux pas, psychologiquement, regarder le mystère de la très sainte Trinité. Mais c'est vrai que quand on aime d'un amour d'amitié quelqu'un, on veut être seul. À deux. Vous êtes que deux. Il ne peut pas y avoir d'intermédiaire. Vous voyez, il y a deux choses qui refusent la médiation. La création et l'amour d'amitié. C'est curieux, ça. L'amour d'amitié refuse une médiation. Véritable amour d'amitié. Et toute médiation diminuera l'amour d'amitié. On sera impatient, on voudra le refuser. Ça, je crois qu'on peut le comprendre. Dès qu'on a un tout petit peu l'expérience d'un amour personnel, d'un amour d'amitié, on comprendrait bien. Et ce qui se passait dans le temps, vous savez, dans certains couvents, où on mettait une tierce pour empêcher de fait que les êtres bête se retrouve et s'aime de trop. Là, il y avait le tierce. Heureusement que c'est supprimé, ça. Parce que je comprends que ça supprime tout véritable contact. Mais vous aviez toujours un ange gardien par derrière. Un gardien ne gêne pas. Hein. Mais si vous aviez un ange gardien qui était un petit toutou, par derrière, il vous suivait partout, partout. Et puis au moment où... Ah, maintenant, reste là. Non, 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 je viens. Parce que je vais écouter. Je vais entendre. Et même s'il dit, je n'entends rien. J'ai une discrétion absolue. Il est présent. C'est très gênant. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire quand on est trois. Point de vue humain, pas dans la très sainte Trinité. Parce que ça, c'est unique. C'est le mystère. De trois en un. Donc, pas d'intermédiaire. Si la fécondité est dans le prolongement direct de l'amour d'amitié, il ne peut pas y avoir d'intermédiaire. Sans ramener la fécondité à l'efficacité. Beaucoup réfléchir à cet argument, on ne le découvre pas tout de suite. Hein. Et si on y réfléchit bien, une fois qu'on a compris la différence entre la fécondité et l'efficacité, on se dit c'est vrai. Alors vous voyez, ça repose sur l'amour d'amitié. En éthique humaine. Confirmation de cela. Je vous ai parlé de cet ami qui faisait une thèse au point de vue psychanalytique, là-dessus. Il travaille depuis 5 ans. Et qui a vu 100 ans. Il m'en a parlé longuement. Chaque fois, il voit quand il y a un intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a fécondation artificielle, il y a un silence entre l'époux et l'épouse. Un silence, non pas positif, mais négatif. Comme s'il y avait une complicité. C'est très curieux. Cette thèse n'est pas encore parue. Mais ceux qui sont pour la fécondation artificielle, dans une université, au point de vue médical, sont venus lui dire ce qu'ils ont su. Surtout, n'éditez pas votre thèse. On vous en voudrait à mort. Parce qu'alors, à ce moment-là, vous dévoilez quelque chose comme conséquence. Ça va intéressé beaucoup parce que vous comprenez, on en avait parlé avant, il m'avait demandé moi, qu'est-ce que j'en pense? Et je lui avais dit, ça tue l'amour d'amitié. Et là, il m'a dit, vous exagérez. Je dis, non, allez jusqu'au bout de l'amour d'amitié, vous verrez, ça ne peut pas être autrement. Mais livrer un secret, c'est mystérieux. Livre inscrit tue toujours l'amour d'amitié. Toujours. Là, l'homme dit, on ne le livre pas, puisqu'on est dans... Ah, quand même. Il y a un spectateur, ou un manipulateur, peu importe, qui vient être quelque chose qui empêche. Le point de vue de cette alliance de la procréation entre deux êtres. C'est leur secret. Puisque c'est le fruit de leur amour. C'est le fruit de leur don. Si je me place d'un point de vue éthique, religieuse, là, je parle de l'âme créée par Dieu. En éthique purement humaine, je peux pas. Mais en éthique religieuse, je dois le faire. Alors, ça devient encore beaucoup plus net. Parce qu'en éthique religieuse, je dis que la procréation implique une alliance avec Dieu. Et c'est Dieu qui a eu l'initiative de cette alliance, puisqu'il est créateur. Je ne peux pas changer, modifier cette alliance comme je veux. Comme si j'en étais le maître. En éthique religieuse, je peux montrer que l'homme n'est pas le maître de la vie et de la vie humaine. N'est pas le maître de la vie humaine. Ni ta mort en éthique religieuse. Et donc, il doit respecter cette alliance. Et s'il la modifie, ça prouve que lui se met au-dessus de ce que représente cette alliance. Et je crois que là, nous pouvons saisir le pourquoi de cette attitude de l'Église, gardienne de l'amour. L'Église est gardienne de l'amour humain, au sens très très fort. Puisqu'elle est mère, autrement l'Église serait plus mère. La mère, elle est gardienne de l'amour, des petits, des enfants. Elle ne veut pas que l'amour soit bafoué. Elle ne veut pas que l'amour soit trahi. Elle veut pas qu'on domine techniquement l'amour. Parce que l'amour est au-delà de toute technique. L'amour est la relation principale et première de l'homme à l'égard de l'homme. Si vous supprimez cette relation d'amour de l'homme à l'égard de l'homme, vous supprimez toutes les autres relations. Parce que c'est une relation fondamentale et première. Alors vous comprenez que l'Église est très attentive à ça. On ne sait pas, nous, on ne voit pas les conséquences de la destruction d'une relation fondamentale d'amour. Parce que nous sommes tous, et c'est normal, on est tous dominés par le point de vue de l'amour. On est source d'amour, oui, mais attention, en réalité, on est source d'amour parce qu'on est attiré par un bien. C'est le bien qui éveille en nous l'amour. Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un qui vous dit « j'aime pas, je sais pas, j'ai jamais aimé dans ma vie », ça existe, et là. Alors vous lui dites « ah, vous n'avez qu'à vouloir, vous aimerez ». Non. Il y a un petit déclic dont je n'ai pas la clé. Pourquoi? Parce que l'amour provient d'un bien qui m'attire. C'est le bien qui actue au plus intime de mon cœur, de ma volonté, l'amour. Je ne peux pas moi-même être source d'amour. Rappel à votre expérience. Et c'est très vrai, c'est pour ça du reste que c'est par l'amour que vous avez la démonstration la plus forte pour remonter jusqu'à un être premier qui soit intelligent et amour. Parce que l'amour qui naît en moi est toujours second. et jamais premier. Je ne suis pas l'auteur de l'amour, comme je ne suis pas l'auteur de mon être. Alors je peux dire, évidemment, je ne suis pas l'auteur de mon amour, mais je veux le dominer. Attention. En le dominant, vous le tuez. Forcément, ça peut être autrement. Vous ne respectez pas ce qu'il y a de premier dans l'amour. Ce jaillissement premier, qui est le bien qui m'attire. Mais rien n'est plus fragile et rien n'est plus fort que l'amour. L'amour spirituel. Parce que quand j'aime, je suis toujours relatif à quelqu'un. C'est pour ça que c'est fragile. Et c'est pas drôle d'être relatif à quelqu'un. Si je l'aime, c'est très bien. Je suis relatif à quelqu'un. Donc, je dirais que par l'amour, je perds mon autonomie. C'est vrai. C'est pour ça que l'homme a tellement de peine d'aimer. Et que la femme aime plus facilement que l'homme. Elle est plus vite attirée vers le par le bien que l'homme. L'homme raisonne. Et l'amour ne naît pas dans le raisonnement. Pourquoi musquer comme ça? Je sais très bien pourquoi. Mais l'amour ne naît pas à partir d'un raisonnement. Le plus beau des raisonnements ne donnera pas cette étincelle particulière que votre cœur commence à aimer. Très curieux, ces choses-là. Il est très étonnant. Il est très intéressant à voir. Faut aller jusqu'au bout. C'est pour ça que ce problème actuel, vous voyez, de la fécondation artificielle est si important pour le philosophe. Parce qu'il est obligé d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, il y a deux problèmes qui sont actuels pour nous. Le problème de l'idéologie athée qui refuse l'existence de Dieu et le problème de la fécondation artificielle qui fait que l'homme peut être maître de l'amour. Maître de la fécondité. Et ces deux problèmes exigent l'homme, le philosophe, d'aller beaucoup plus loin qu'il n'a été jusque maintenant. Découvrir que c'est seul par le point de vue de l'être existant, le jugement d'existence, et d'autre part, bien qui m'attire, bien connu qui m'attire. S'il ne voit pas ces deux aspects-là, je ne peux pas répondre. Si je vois ces deux aspects-là, oui, je peux répondre. Parce que je relativise deux absolus. En allant plus loin qu'eux. Alors, je vous demande de réfléchir là-dessus. Si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. C'est important. Et si vous n'avez pas, on passera tout de suite au problème suivant. Sauf si les questions qui viennent de vous et qu'il y a d'autres problèmes.